Zai, zai.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme...
Bonjour, nous sommes ensemble en direct sur Zai Zai Radio pour une journée spéciale consacrée à des actions militantes et de commémoration à travers l'histoire en Charente. En programmation aujourd'hui, vous aurez des interviews, des témoignages d'anciens objecteurs de conscience, des reportages, de la poésie, de la musique. C'est une programmation en écho au centenaire du monument antimilitariste de Gensioux en Creuse et en partenariat avec Radio Vassivière. Je suis Amandine Esneau, enseignante, autrice, slameuse et féministe, présidente de l'association de slam poésie en voix des mots, et j'accueille dans cette émission Claudie Voué, qui est là avec moi dans le studio, et Joël Palmieri, qui est avec nous en direct par téléphone. Donc on va parler donc des conflits, des femmes et de la paix. Claudie, tu es charentaise, tu es très active dans le groupe féministe le collectif 8 mars. Tu es experte dans l'égalité femmes-hommes sur les questions de genre dans les politiques publiques depuis 30 ans à l'international. Tu as préparé un cours sur genre et conflit pour l'Université de Genève. Et par un heureux hasard, donc, on a pu ajouter cette émission à la programmation de ce jour, puisque effectivement, Léa t'a contacté, si tu veux nous expliquer de quoi c'est parti, cette proposition d'émission.
C'est parti d'un bonjour d'abord, Amandine, et puis merci à Léa, parce qu'effectivement, c'est parti d'un petit post que j'avais mis sur le Facebook, la page Facebook du collectif 8 mars Angoulême-Charente, pour justement parler de la question des conflits, parce que malheureusement, c'est énormément d'actualité. Et puis Léa a repéré le post et elle m'a dit, mais tu sais, on a une journée sur cette question, et ça serait peut-être bien qu'on ouvre un créneau pour parler de genre et conflit. Voilà. Et donc j'ai dit oui, et j'ai dit j'en parle à ma copine Joëlle Palmieri, et c'est pour ça qu'elle est là avec nous aujourd'hui aussi.
Bonjour Joëlle.
Bonjour.
Est-ce que Claudie, tu peux présenter Joëlle, s'il te plaît ?
Bon Joëlle, je ne vais pas dire qu'elle est imprésentable, mais presque. C'est une autodidacte. Bon, elle a été journaliste, elle a créé notamment l'agence de presse Les Pénélopes. Alors Joëlle, je te préviens, j'ai tous les livres sur la table pour montrer aux gens qui ne verront pas. Mais elle a créé l'agence féministe Les Pénélopes, qui pendant de nombreuses années à analyser toute l'actualité, y compris politique, au prisme féminisme. Et elle a écrit notamment dernièrement, parce qu'elle est directement concernée, une autopsie féministe de la fibromyalgie, ce qu'elle appelle une maladie de femme, entre guillemets. Ça s'appelle la douleur impensée. Donc voilà, elle écrit beaucoup, elle est politologue, elle est chercheure, elle a fait une thèse sur la colonialité des outils de l'information, de la technologie, leur impact sur le genre. Et puis elle est militante, donc les Pénélopes, j'en ai parlé, et on a cofondé ensemble, il y a 20 ans déjà, le réseau francophone Genre en Action. Et c'est pour ça qu'on se connaît très bien.
D'accord, super, merci. Merci beaucoup Joël d'être avec nous. Joël, je voulais te demander, qu'est-ce que ça signifie être antimilitariste quand on est féministe, et pourquoi pas juste pacifiste ?
Alors, merci à vous, effectivement, pour cette invitation. Je suis très contente de participer à cette commémoration antimilitariste. Alors, comment on en vient à être antimilitariste en tant que féministe ? D'abord, je crois qu'il faut partir du début, c'est-à-dire que quand on parle de conflit armé ou de guerre, on parle fatalement d'armée et donc de faits militaires. À partir de là, moi, en tant que féministe, elle est très, très inspirée par les travaux de la sociologue André Michel, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Je peux pas me contenter d'être pacifiste. Donc, en revanche, je me situe entièrement comme antimilitariste parce que, en fait, la militarisation, je la vois à peu près partout, je vois à peu près quoi, partout dans tous les pays. Et la militarisation, c'est plus que la militarité ou le militarisme, c'est une idéologie qui est au service, on verra peut-être un peu plus tard, d'un système un peu complexe. Et cette idéologie s'accompagne d'une rhétorique qu'on entend tous les jours, en fait. Et cette rhétorique, elle parle. Et c'est pas que en temps de conflit, et même pas si on n'est pas encore nous-mêmes en situation de conflit, on l'entend de toute façon tous les jours à n'importe quel propos. Elle parle d'autorité, de hiérarchie, d'ordre, de discipline, de répression. D'ailleurs, cette répression, dans la répression, on inclut la torture, l'incarcération, la privation des droits. Tout ça sont des moyens qui sont importables d'un conflit à l'autre. Je pense notamment aux systèmes de torture qui ont été mis en place par l'armée française pendant la guerre d'Algérie, qui ont été directement exportés en Argentine pendant la dictature de Pinochet. Mais c'est aussi en temps de paix, c'est-à-dire que ça reste cette idéologie très, très verticale, reste en temps de paix. C'est aussi la militarisation, c'est aussi le droit et le devoir de tuer, au moins pour les militaires, pour les personnes en armes. Mais c'est aussi le droit et de vie de mort sur les citoyens. Et ça fait écho pour moi directement en amont ou en aval de ces conflits ou de ces périodes un peu très répressives, au nationalisme, à la xénophobie, au racisme, au sexisme, et j'en passe. Mais là, je pense que déjà, c'est pas mal. Et selon moi, la militarisation, en fait, est directement héritière du patriarcat. Alors, le patriarcat, littéralement, ça veut dire autorité du père. Et là, donc, l'autorité, par la militarisation, elle est dédiée à trois grands ensembles qui sont l'état-major, donc les chefs d'armée, l'État qui est représenté par un président ou un premier ministre, et les entreprises d'armement. Donc ça peut-être on va en discuter après, mais tout ça donc a été très théorisé par Michel, c'est-à-dire qu'il y a une translation en quelque sorte entre les fondements du patriarcat sur un système, donc la militarisation, qui est totalement banalisé. À partir de là, si j'entends qu'on me dit, on me l'a encore dit hier soir, que non, c'est vachement mieux le patriarcat quand même, ça sert vachement à rappeler, etc., qu'on a gagné quand même des points, etc. Je ne crois pas du tout, justement, parce que la militarisation, elle, est très peu théorisée en France, à part quelques, je parle par les féministes, à part quelques chercheuses. Et à partir de là, ça a pris le relais, en fait. La militarisation sur la couche et la fine couche du patriarcat, des tâches ménagères, etc. Voilà.
D'accord.
Je pense que pour le début, je vais m'arrêter là.
Merci. Et du coup, pour compléter, Claudie, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'impact des conflits sur les femmes? De quoi sont-elles victimes exactement?
Alors, ça complète et puis surtout, ça vient témoigner, ça vient éclairer ce que Joël vient de raconter, c'est-à-dire que toute cette articulation, enfin cette translation entre patriarcat et militarisation, elle s'observe de façon très très concrète dans les conflits, alors que ce soit les conflits armés bien évidemment, les conflits entre pays, mais aussi les guerres civiles et puis les différents mouvements de résistance auxquels on assiste régulièrement dans les pays qui se lèvent quand les gens se lèvent contre des dictateurs ou des régimes donc non démocratiques. Parce que c'est malheureusement tellement d'actualité aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui. On peut peut-être commencer par parler un petit peu de ce qui se joue sur ce qu'on peut appeler un peu le corps social et le corps économique des femmes dans les conflits. C'est la partie à la fois la plus médiatisée, même si c'est pas forcément la plus visible, en tout cas dans toutes ses dimensions. La plus médiatisée, pourquoi ? Parce que ce que l'on sait, bien évidemment, c'est que en période de conflit, et on l'entend aujourd'hui pour Gaza, on l'entend pour l'Ukraine, on l'entend beaucoup moins malheureusement pour la Somalie ou d'autres endroits qui sont beaucoup moins dans l'actualité. Un des premiers impacts des conflits, c'est la destruction des services de base. C'est la destruction des services de santé, c'est la destruction de l'école, c'est la destruction des infrastructures, d'ailleurs qui sont généralement les cibles même militaires, parce qu'on sait très bien que quand on détruit ça, on handicape tout le reste, bien évidemment. Alors les femmes, elles sont triplement impactées par ça à plusieurs niveaux. D'abord parce que traditionnellement, dans beaucoup de contextes, elles sont chargées de ce qu'on appelle le care. Voilà, c'est quelque chose dont on parle fréquemment. C'est-à-dire qu'elles sont chargées de s'occuper des personnes qui vivent à la maison. Donc les enfants, les personnes âgées, les malades, voilà. Et donc, bien évidemment, quand les services disparaissent, quand il n'y a plus de santé, quand il n'y a plus d'éducation, quand il n'y a plus moyen d'aller au champ pour cultiver parce que les champs sont minés et parce que les champs deviennent un terrain de viol aussi. On a beaucoup entendu les femmes congolaises, notamment, raconter qu'elles avaient cessé d'aller cultiver parce que partir dans les champs, c'était s'exposer, on y reviendra, à des viols collectifs. Donc évidemment, quand elles ne peuvent plus assurer le sanitaire, l'alimentaire, la question de l'eau qui devient évidemment très rare, de l'eau potable, la question de l'énergie. Là, on a coupé l'électricité à Gaza. Quelles implications pour ça ? Donc ça, toutes les conséquences de ces destructions, ou de ces restrictions, mais souvent de destructions, elles pèsent beaucoup, beaucoup plus encore sur les femmes. Elles sont vraiment exacerbées parce que justement elles ont ce rôle traditionnel de subvenir aux besoins de base du foyer. Elles sont impactées doublement, on le voit, alors pas simplement dans les crises, pas simplement dans les conflits, mais aussi dans les crises, quand il y a des crises, des inondations, des tsunamis, des tremblements de terre, parce qu'elles s'occupent des enfants, souvent, elles sont ralenties dans leurs déplacements. Donc le transport, par exemple, se déplacer, c'est aussi beaucoup plus compliqué. Sans oublier le fait que généralement, elles sont également elles ont aussi moins d'argent, très souvent, que les hommes, donc quand ça coûte, ça devient plus compliqué. On voit aussi ça très clairement dans les camps de réfugiés, où la hiérarchie, les hiérarchies de genre se remettent en place, Et si on n'apporte pas, et ça a été le cas pendant très très longtemps, si on n'apporte pas une attention très particulière à la façon dont on organise ne serait-ce que la distribution alimentaire, les femmes n'y ont pas accès. Donc il y a une dizaine, quinzaine d'années, c'était très compliqué pour les femmes d'avoir accès à leur ration alimentaire parce que les hommes tendaient à capter, ouais. Parfois à monétiser même la revente de ces produits-là. Donc ça a un petit peu changé dans les camps, par exemple, où on essaye d'organiser les choses un peu différemment. Donc les sources de revenus sont impactées parce que beaucoup de femmes, notamment dans les pays des Sud, dépendent de l'informel, du marché informel, des emplois informels. Notamment, elles sont commerçantes sur les marchés, dans les rues. Et donc, bien évidemment, tout ça ne peut plus se faire. Hein. Donc, leurs sources de revenus sont évidemment très, très impactées. Et puis aussi, elles sont impactées pendant le conflit, mais aussi après le conflit, parce que très, très souvent, elles ont moins de titres fonciers, moins de titres de propriété à leur nom propre. Et donc, quand elles perdent dans un conflit leur maison ou leur gargote ou leur maquis, enfin leur petit restaurant, l'endroit où elles gagnent leur vie, elles ont beaucoup plus de mal à récupérer parce que justement très souvent elles n'ont pas de titre foncier. Donc elles sont très impactées dans leur rôle, on va dire, traditionnel, mais elles sont aussi impactées dans le sens où bien souvent le conflit les pousse effectivement aussi à prendre ce qu'on va dire la place des hommes. Hein, on a tous en tête Rosie la riveteuse, hein, on la connaît, avec son bleu de travail, son petit fichu rouge sur la tête qui dit « Yes, we can ». Et en fait, Rosie la riveteuse, c'est un mouvement qui est né quand on a voulu renvoyer toutes ces femmes américaines qui avaient travaillé dans les usines d'armement pendant la Seconde Guerre mondiale, qui faisaient des rivets, hein, justement, qui posaient des rivets sur les armes, et à qui on a dit, après la guerre, ça va, cocotte, maintenant, merci d'être venue, mais maintenant, tu peux rentrer chez toi. Donc, on commence à de plus en plus documenter. Donc là, j'ai un peu envahi la table avec des bouquins. Là, par exemple, j'ai un livre sous la main qui s'appelle « Les femmes de l'Ouest sous l'occupation », d'Isabelle Soulard, qui raconte le quotidien des femmes en France pendant l'occupation. Il y a des films, je pense au film Les Gardiennes par exemple, qui racontent les femmes et ce qui leur arrive pendant la guerre. Je suis tombée récemment sur une petite page des témoignages sur le site du Crédit Agricole, où le Crédit Agricole raconte justement comment de nombreuses femmes pendant la guerre, hein, la Deuxième Guerre mondiale, ont pris la place de leur mari, qui était gestionnaire des portefeuilles des agriculteurs, et qu'elles ont en fait sauvé les acquis des agriculteurs en continuant à gérer les caisses et en planquant en fait l'argent des agriculteurs.
On commence juste à en parler en fait, à découvrir.
Donc il y a plein de sujets comme celui-ci.
Alors là, on est le 5 novembre, on a le 11 novembre la commémoration, on a le 25 novembre la journée internationale contre les violences faites aux femmes. On célèbre aussi cette semaine la résolution des Nations Unies 13-25. Qu'en est-il justement de la question de ces violences pour les femmes dans les conflits ?
Alors la question des violences, elle est énorme. Je pense qu'on n'a pas encore mesuré à quel point elle est importante. Je pense qu'elle a toujours existé dans les conflits, mais elle existe dans les conflits parce qu'elle existe hors des conflits. Elle est simplement exacerbée au moment des conflits parce que pendant les conflits, il n'y a plus d'état de droit. Donc il y a énormément de facteurs qui jouent. Et c'est vrai que la question du corps des femmes... déjà, la question du corps biologique, je parlais tout à l'heure des risques quand la santé est défaillante. Hein, en ce moment, on estime qu'il y a à peu près 160 enfants qui doivent naître à Gaza par jour. Donc vous imaginez, on parle déjà de césarienne pratiquée sur les femmes actuellement sans anesthésie. D'accord ? Donc évidemment que les femmes, du fait de leur rôle reproductif, il y a des choses bien particulières qui leur arrivent pendant les conflits. On a eu énormément de témoignages, par exemple, de femmes, notamment pendant la guerre en Syrie, qui parlaient de la difficulté à gérer les menstruations, parce que on n'a que des chiffons sales pour comme protection hygiénique, et donc des infections, etc., etc. Donc ça, c'est des choses dont on commence à parler.
Ouais, on imagine de loin, mais on ne prend pas le temps de
Absolument, absolument. Donc ça, sont effectivement des formes de violence indirecte, mais après, bien entendu, il y a tout ce qui est violence directe. Et ce qui nous fait dire très souvent qu'en fait, la question des violences, c'est vraiment la guerre dans la guerre. La question des violences sur les femmes, c'est vraiment la guerre dans la guerre. Et on a énormément de témoignages, bien entendu, d'actes, alors de viols, d'actes de torture, de trafic, d'esclavage sexuel, de violences sur les enfants, de mariages forcés, évidemment la prostitution. On est à Angoulême, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2014, il y avait une exposition d'une BD sur les femmes de réconfort, qui sont les femmes qui étaient mises à disposition des soldats par le gouvernement japonais à l'époque. Ça avait fait même polémique à Angoulême par rapport à la position du Japon, enfin en tout cas le rôle du Japon. Donc il y a vraiment plein de choses qui se passent pendant les guerres dont les pays ne sont pas forcément très fiers par la suite, hein, notamment quand les gouvernements eux-mêmes ont été partie prenante. On a énormément de cas, évidemment, de femmes qui se suicident suite à des viols à répétition, collectifs. Beaucoup d'exclusion sociale. En RDC, on entend souvent des femmes dire « mais moi, j'ai trop honte. Partout où je passe, on me pointe du doigt et les gens disent « voilà, c'est celle qui a été violée ». Et donc, il y a beaucoup de femmes qui sont exclues par leur propre famille. Au Rwanda, on a des témoignages de soldats qui savaient pertinemment être porteurs du sida et qui ont violé pour notamment transmettre la maladie. Donc voilà, on a une panoplie d'horreurs très, 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 très large. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que alors ces crimes-là sont commis soit par les troupes ennemies, mais parfois aussi par des civils, hein, et puis on a énormément de témoignages aussi, malheureusement, de ces crimes-là commis par des agents du maintien de la paix, hein, des casques bleus. Quand c'est commis par l'ennemi, c'est pas simplement je vais violer une femme ennemie, mais je vais violer la femme de l'ennemi. Et ça, voilà, c'est complètement constitutif de cette volonté de détruire en fait le tissu social en créant des bâtards. On sait, enfin, j'emploie le terme évidemment parce que c'est le terme qui est souvent utilisé. Et c'est beaucoup plus. On parle pas là de soldats qui ont des besoins sexuels non assouvis. Hein, on parle vraiment d'une stratégie. Oui. Hein, d'une stratégie qui est souvent d'ailleurs portée par au plus haut niveau des états-majors.
Merci Claudie. On va faire une petite pause. On va écouter les voix de femmes. Bibir Quintana, je suis désolée pour mon accent. Canción sin miedo. Et après, on revient vers Joël.
Las calles que tienen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas, a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza.
lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
Justicia, justicia, justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
C'était un choix musical de Claudie. Merci pour ce choix. On continue, on vient de parler donc des femmes qui sont victimes en temps de conflit, de différents types de violences qu'elles subissent. Joël Palmieri qui est avec nous en direct par téléphone. Est-ce qu'il y a une place spécifique pour les femmes dans la gestion des conflits, dans les discours politiques?
Alors, je voudrais revenir un moment, si vous permettez, sur la question des violences que Claudie a très bien, évidemment, décrit. Je crois qu'il est important aussi de... Ça ne se passe pas que pendant les conflits, en fait.
Ouais.
Tous les systèmes de violence qu'elle a décrit se banalisent, même quand il n'y a pas la guerre, même quand il n'y a pas de conflit armé. Et ça se... Alors, c'est hérité... je l'ai un peu abordé tout à l'heure, c'est hérité d'un système qui est assez complexe, qu'on appelle le complexe militaro-industriel, qui réunit donc des chefs d'État, des armées et des entreprises d'armement qui ont réalisé plutôt dans les années 60. Qu'ils avaient des intérêts convergents. Donc, en gros, construire des bombes et des missiles, ça se vend. C'est un marché. La guerre est un marché, mais elle reste un marché après pour assurer la sécurité, comme ils disent, dans les sociétés. Je sais pas quoi, là, les balles en plastique, voilà, les noms des armes ne me reviennent pas, mais une pléthore d'armes qui sont utilisées par les forces de l'ordre en temps de paix, qui viennent de cette idée que, ok, non seulement c'est un marché, donc on fait marcher l'usine à fabriquer des bombes, mais ça intéresse aussi les États qui, comme dirait Foucault, ont plutôt intérêt à contrôler la société. Donc, ça passe aussi par les armes, quoi, par les forces de sécurité qui utilisent les armes. Et ça intéresse aussi beaucoup l'armée qui, elle, continue, en dehors des conflits, à banaliser l'idéologie selon laquelle, par exemple, les femmes sont victimes uniquement, alors qu'elles peuvent être résistantes. Ça, peut-être qu'on va le voir un peu plus tard.
Oui, on va en parler ensuite. Ouais, merci.
C'est rarement dit. Dans la même logique, si on interroge les rapports de genre, dans les conflits, les hommes sont forcément des hommes en armes, héros ou martyrs. Mais dans la vie quotidienne, ça, c'est pareil, en fait, en quelque sorte. Hein. Donc, il y a déjà un rapport de force, un rapport de pouvoir social par la militarisation. Évidemment, ce que disait Claudie aussi, ça a des répercussions sur le travail. Donc la division sexuelle du travail telle qu'elle est décrite pendant la guerre, où les femmes se sont mises à remplacer les hommes dans les usines à fabriquer. Bon, ça reste en fait, tout ça reste, même en temps de paix. Ça marche aussi pour la culture, pour l'éducation, où en fait, ce que j'essaie de dire, c'est la question des violences devient un mode de socialisation avant, pendant et après les guerres. On peut pas, c'est-à-dire que le seul moyen de se parler, de discuter, d'échanger, se passe par les violences. Donc après, ça passe par les viols, ça passe par les féminicides, mais ça passe aussi par le langage. Alors là, on a eu un exemple très rigolo. Je vous passe sur le point médian, mais si je voulais, je pourrais en parler deux heures sur le lien entre la question du point médian et la militarisation. Donc, il y a comme ça une banalisation de l'autorité. Et cette autorité, par ailleurs, si je reviens à l'histoire du complexe militaro-industriel, alors ce mot déjà, donc la terminologie, complexe militaro-industriel, a été inventé en 1914, juste avant le début de la guerre, la Première Guerre mondiale, par des pacifistes, pour dire, ah là, il y a un problème. J'ai devant moi, j'ai ressorti une carte postale, alors évidemment, on ne pourra pas la voir, mais je peux vous la décrire. Ça s'appelle le fusil à répétition, ça c'est bon pour la repopulation. Donc là, on voit un fusil accroché sur ce fusil, donc je ne sais pas comment on appelle ça, le manche du fusil, des petites sacoches, et là, il y en a au moins là, il y en a 8, des petites sacoches. Dans chaque sacoche, il y a un bébé. Donc c'est toute une idéologie. Ouais, donc ça c'est le début de la Première Guerre mondiale quand même. Et donc, cette idéologie, par ailleurs, faut le dire, c'est que dans ce complexe militaire ou industriel que j'arrête pas de citer, donc le terme a été créé en 1914 par des pacifistes, mais il a été réapproprié de façon complètement perverse, on peut dire, par Eisenhower, par les États-Unis, dans les années 60, pour réguler tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire le marché des armes, le lien entre sécurité, défense, forces armées, etc. Donc c'est devenu un système pour régir les relations sociales. Ça, il me semblait que c'était important.
Merci beaucoup pour la précision. Et tu as parlé tout à l'heure d'André Michel, qui est une figure très forte dans l'antimilitarisme. Est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu, s'il te plaît ?
Voilà, pour moi, c'est très difficile parce que tout de suite,
un petit peu, c'est pas possible. Ouais, d'accord.
Donc, André Michel, elle est née en 1920 et elle est morte en 2022. Donc, elle a traversé un siècle quand même, donc un siècle d'histoire. Autant du féminisme que de guerre, parce que elle a vécu par ricochet la Première Guerre mondiale, parce que beaucoup de ses oncles, de ses frères, soit sont morts, soit ont été mutilés de guerre. Ça démarre là-dessus. Après, elle a vécu elle-même la Deuxième Guerre mondiale, donc elle s'est engagée. Elle venait du sud, de la France, de la Provence Côte d'Azur, mais ça s'appelait pas comme ça à l'école. Et elle a été s'engager à Grenoble pour aider les blessés en fait sur le front. Et après, la guerre d'Algérie, elle s'est engagée comme porteuse de valises. Elle avait déménagé à Montreuil volontairement. À l'époque, elle a été sociologue de la famille, spécialiste elle faisait le lien entre les discriminations faites aux travailleurs immigrés et les faites aux femmes. Donc elle faisait le lien entre patriarcat et racisme, racisme en tant que système. Donc elle s'est engagée sur la guerre d'Algérie. Et après, en fait, elle n'a jamais arrêté de s'engager sur les questions de conflit. Donc ça vaut pour la Palestine, ça vaut pour la Colombie, ça vaut pour la Yougoslavie, pour l'Irak. C'est une des rares françaises féministes qui s'est engagée aux côtés d'autres, des femmes arabes. On va en parler tout à l'heure, je pense, sur la question de la lutte contre la guerre en Irak. Mais aussi, elle passait à partir de l'âge de 50 ans, donc à mi-temps du siècle, elle a passé son temps à témoigner son soutien à des luttes de femmes antimilitaristes partout dans le monde. Et là, je vous dis le quart du 20e de ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que pour elle, c'était... Alors, ses deux ouvrages principaux sur ces questions, il y en a un, c'est quand même une encyclopédie, c'est sur armement, paix, démocratie, où là, elle fait le lien entre justement les situations de guerre et les situations de paix. Un plus récent qui s'appelle Féminisme et antimilitarisme, où elle reprend en gros ce qu'elle disait déjà dans Sur armement, paix, démocratie. Moi, ce que j'ai appris, par exemple, avec elle, c'est que l'histoire de la banalisation des violences se lit dans les lignes du budget national. D'accord, par exemple, aujourd'hui, en 2023, en France, donc on est censé ne pas être en guerre, hein, quand même, a priori, on n'est pas en guerre. Le budget de la défense, en fait, qui inclut l'armée, la gendarmerie, et on peut même ajouter les forces de police, il est 600 fois supérieur, quand même, au budget de l'égalité homme-femme.
Wow.
Hein, 600 fois. Et il est 60 fois supérieur au budget de la santé.
Oui, c'est très
révélateur. Effectivement, à la lumière de la lecture, moi je les lis tous les ans, c'est passionnant.
Ça se fait du mal.
De lire les budgets qui sont votés chaque année. Parce que et après, il y a des lois de programmation militaire, ça aussi c'est intéressant. Parce qu'on voit comment ils se projettent sur 4 ans, comment les dépenses sont projetées sur 4 ans. Et à chaque fois, c'est impressionnant. Et on n'en parle jamais de ça. C'est à quel point il y a un écart entre l'argent qui est réservé à la sécurité du territoire et l'argent qui est réservé, je sais pas, à l'éducation, à la santé.
Ouais, ça fait vraiment réfléchir. Merci, Joël. On va continuer, du coup. C'est vrai que ça nous donne envie d'aller rechercher un peu plus, d'aller lire les ouvrages d'André Michel et de se plonger dans ces chiffres. On va écouter un petit extrait. Et ensuite, on ira vers Claudie pour poser encore quelques questions. Merci.
Sous le soleil et dans le sable, ces femmes ont marché pendant 2 semaines en Israël et en Cisjordanie pour promouvoir la paix entre Israéliens et Palestiniens. Dans le cortège, des milliers d'Israéliennes et de Palestiniennes, toutes sont venues porter un même message.
Enough. Must speak in Arabic. It's makafi. Enough. We're no longer willing to do this. We must reach a political agreement.
For the first time, are raising their voice and asking for peace because they need it. It's not because they want to be politicians in the Knesset or they want to be prime ministers. They need peace.
À l'origine de cette marche, le mouvement Women Wage Peace, les femmes font la paix. Une organisation créée après la guerre de l'été 2014 dans la bande de Gaza. Objectif du mouvement, créer un parlement de femmes pour rappeler aux dirigeants politiques que les accords de paix doivent être une priorité. Une demande que ces femmes ont portée jusqu'à Jérusalem, point d'arrivée de leur périple.
Merci. Donc on est avec Claudie Vouet et Joël Palmieri. Claudie, les femmes sont actives en fait. Finalement, elles peuvent être actives dans les conflits. Quelles peuvent être et quels sont leurs rôles?
C'est évident. Ce que disait Joël, effectivement, le discours de la femme qui est uniquement victime, il est complètement décalé par rapport à la réalité. Donc peut-être juste très rapidement, parce qu'on arrive vers la fin, deux grands domaines d'activisme ou d'activité plutôt des femmes. Déjà, il y a beaucoup de femmes combattantes. Alors, c'est marrant parce que par rapport aux chiffres que donnait Joël sur le budget de l'armée. Dernièrement, de plus en plus, on vous rétorque « Oui, mais il y a quand même de plus en plus de femmes dans l'armée », comme si c'est aussi ce qui pouvait justifier finalement qu'il y avait un lien peut-être entre le budget des armées et l'égalité hommes-femmes. Il faut voir, la France possède la 4e armée la plus féminisée du monde, derrière Israël, la Hongrie et les États-Unis. Il y a 16,8% de femmes dans l'armée française. Alors évidemment, elles ne sont pas au plus haut de l'organigramme, mais elles y sont. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, encore une fois, en termes de socialisation, les femmes ont dû se battre pour être autorisées à se battre. Hein ? Voilà, c'est quand même le paradoxe. Alors que très souvent, on estime que les hommes sont plutôt socialisés à se battre et forcés aussi à se battre. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que les femmes, évidemment, ne sont pas par nature intrinsèques, essentialistes, pacifistes ou antimilitaristes. Hein. Athéna et Minerve, c'était quand même les déesses de la guerre. Et puis, bon, voilà, après, on pourrait faire une très longue liste de combattantes armées, mais aussi de femmes qui se sont engagées à plein de niveaux. Dans les combats, que ce soit sur évidemment en tant que résistante, hein, on a tous en tête Lucie Aubrac si on parle que de la France, mais aussi beaucoup de femmes qui dans tous les conflits s'investissent pour faire passer des armes, pour résister directement, pour cacher des personnes, pour faire des choses après beaucoup plus classiques, on va dire. On a tous en tête les images des femmes ukrainiennes ces derniers mois qui cousent, enfin qui préparent des filets de camouflage et puis qui font la cuisine aussi, hein, pour les armées. Donc il y a vraiment plein de rôles différents, donc plus ou moins armés dans les conflits. Ce qui est intéressant, c'est de voir que très souvent dans les conflits armés aussi, quand les femmes s'engagent, et pour faire aussi un peu écho à ce que disait Joël, elles s'engagent aussi avec une idée que en se positionnant sur des fêtes qui sont plutôt des fêtes donc nationalistes, hein, généralement de défense du territoire, elles vont pouvoir aussi faire évoluer un système par rapport à peut-être la question du racisme, hein, on le voit ici pour la question israélo-palestinienne, et puis aussi la question du sexisme. On le voit par exemple quand on lit des documents sur les femmes, les commandantes dans la lutte des Chiapas au Mexique, où elles disent, voilà, nous on se bat à la fois pour être respectées dans nos maisons et respectées dans la tribu et respectées dans la nation. Donc ça se joue à plein de niveaux différents. Malheureusement, ce qui se passe, on l'a vu si on repense par exemple au printemps arabe, où on a vu les femmes sortir en masse, je pense à l'Égypte notamment, les femmes sont sorties en masse pour dire non à la dictature à l'époque de alors je ne sais même plus comment il s'appelait, Mossi, et on leur a dit jusqu'à un certain niveau, tu es la bienvenue dans cette révolution, mais ta révolution de femme, elle attendra. Hein, donc voilà, et ça c'est quand même un fait qu'on voit dans beaucoup de situations. On voit très clairement par exemple que les filles qui essayent de rentrer dans les écoles militaires à Saint-Cyr, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois ou c'était l'année dernière, des séances d'agression sexuelle. On n'est pas dans le bizutage, hein, on est dans de l'agression sexuelle, c'est-à-dire qu'on dit à ces filles-là, là t'es quand même dans le dernier bastion des mecs. Et donc ta place elle n'est pas là, et pour être là il va vraiment falloir que tu souffres. Donc les femmes dans le combattante, c'est compliqué aussi à ce niveau-là. Après effectivement, et tu as parlé tout à l'heure de la résolution 1325 qui fête cette semaine ses 23 ans, la résolution 1325 des Nations Unies, elle a été conçue parce que justement, l'importance de la participation des femmes dans les processus de paix a commencé tout simplement à être reconnue. Donc en 2000, hein, après le Rwanda, après la Bosnie, c'est venu très 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 tard. Et c'est simplement en 2020 que le Conseil des droits de l'homme a reconnu le rôle déterminant des femmes dans la prévention et le règlement des conflits. Parce qu'on parle bien de prévention, de gestion et de reconstruction. Il y a moins de 5% de femmes autour dans les tables de négociation de la paix au niveau mondial. Après, ce qui est très intéressant dans l'extrait sonore qu'on vient d'entendre, c'est de se rendre compte que ce soit les femmes en Irlande dans les années 70, où les catholiques et les protestantes se sont unies pour dire stop à la guerre, que ce soit en Israël ou en Palestine, où on le voit aujourd'hui, mais ça remonte à 15 ans que les femmes israéliennes et palestiniennes, ensemble, s'unissent pour dire non. On a des exemples en Afrique, je pense au mouvement des femmes de la Mano River, autour du Liberia, par exemple, qui ont créé un réseau des femmes pour la paix absolument gigantesque. Donc ça, ce sont vraiment aussi des réalités. Malheureusement, très souvent, elles sont encore beaucoup trop uniquement, si vous voulez, dans la sphère de la société civile. Elles montent des mouvements. Mais il y a encore un grand pas à franchir pour être admise autour de la table, vraiment la table des, des négociations.
Merci beaucoup. Merci Claudie Vouet. Merci Joël Palmieri. On voit bien, on a survolé avec les 45 minutes qu'on avait, mais c'était passionnant. Et voilà, j'invite tout le monde à faire des recherches dans ce sens-là. Et puis, je ne sais pas, peut-être qu'on pourra rajouter des informations. En tout cas, on voit bien qu'on ne peut pas regarder les conflits de manière non genrée et que les femmes ne sont pas des victimes collatérales, mais bien des victimes centrales. Merci vraiment pour votre expertise, Joël et Claudie. Et on vous souhaite une belle journée sur Zaï Zaï Radio.
Merci beaucoup.
Qui, combien, quand et pourquoi, contre qui, comment, contre quoi, c'en est assez de vos violences. D'où venez-vous, où allez-vous, qui êtes-vous, qui priez-vous, je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi, s'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose. Je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes, je suis pour des forêts profondes. Car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences. Que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfant. Comment, quand et combien, contre qui, comment et combien, en perdre le goût de vivre.
Indépendant.
Local.
Culturel.
Indépendante.
Étudiante.
Musicale.
Zaï Zaï Radio.